Petite vie de Saint Ignace de Loyola, un contemplatif dans l'action, le fondateur des Jésuites. Un ouvrage du père jésuite Albert Longchamp, paru aux éditions Artege Poche. Une lecture proposée par Maïté Iratsoki.
Pierre Favre et François-Xavier sont arrivés à Paris tous deux en 1525. Ils ont le même âge, 22 ans, mais des tempéraments aussi opposés que possible. Le Savoyard, né au Villaret, petit village près de Saint-Jean-de-Sixte, est grave, merveilleusement gracieux, studieux, robuste et pieux. En 1530, lorsqu'il rencontre Inigo, il éprouve aussitôt sympathie et confiance pour ce compagnon de 15 ans, son aîné. Pierre, à cette époque, ne sait encore quelle voie suivre. Il est tourmenté de scrupules. Il s'ouvre à Inigo, qui l'amène à la confession, à la communion hebdomadaire. Ensemble, ils vont prier dans l'église des Chartreux. Inigo ne presse pas son évolution. Après un voyage dans sa famille en 1533, Pierre Favre fait les exercices pendant un mois en se retirant dans une maison du Faubourg Saint-Jacques au début de 1534. Le froid est coupant, mais le retraitant renonce à se chauffer et à se nourrir pendant 6 jours. Quand Inigo découvre ses excès, lui qui en a connu les dangers, il intime aussitôt à Pierre l'ordre d'y mettre fin. En retrouvant équilibre et paix, Favre est libéré de ses doutes. Il décide d'être prêtre et sera ordonné le 30 mai de cette même année. François-Xavier, lui, est venu chercher à Paris des grades pour faire carrière. Il est d'une nature ambitieuse et plutôt ombrageuse. Il faut que jeunesse s'amuse. Les nuits de Paris, à nous, la rue et les tripots. Certes, il envisage l'état ecclésiastique, mais dans le seul but d'en toucher les bénéfices. Ignace le sut si bien et avec quelle tendresse amadouer et apprivoiser qu'il en a fait un immortel apôtre des Indes. Ce témoignage d'un jésuite français, le père Auger, qui a connu Ignace pendant plusieurs années, laisse deviner un combat de haute lutte entre les deux hommes. Inigo est d'abord la cible des railleries de Xavier, qui supporte mal cet étudiant attardé. À peine le rencontrait-il sans se gaudir, affirme Auger. Et il faisait peu d'état pour Ignace, qui pour lors allait vivre autant à la merci d'autrui. Polanco ajoute, sans complaisance, « J'ai ouï dire à notre grand mouleur d'homme Ignace que la plus rude patte qu'il ait onque maniée, c'était au commencement ce jeune François-Xavier. » On ne sait pas comment Inigo finit par conquérir le cœur rétif de François. On sait par contre la suite. Le 15 mars 1540, François est désigné par Ignace pour la mission des Indes. Il part dès le lendemain en direction du Portugal, d'où il gagnera Goa avec la flotte du vice-roi. Le voyage va durer 1 an. Dès lors, François-Xavier se dépense sans compter, passe au Japon, aspire à la Chine. Il meurt épuisé le 3 décembre 1552, sur un îlot proche de Canton et proche du but. Son amitié pour Ignace est intense. Témoin, son bulletin de vote, destiné à l'élection du supérieur général de la compagnie naissante. Citation. « Moi, Francisco, je dis, j'affirme, sans la moindre pression de personne, qu'à mon jugement, celui qui doit être élu supérieur de notre compagnie, auquel nous devons tous obéissance, me paraît en conscience devoir être notre ancien supérieur et vrai père, Don Ignace. Il nous a réunis au prix de bien des peines. À ce prix encore, il saura le mieux nous garder, nous gouverner et nous faire progresser, car il est celui qui connaît le mieux chacun de nous. » Fin de citation. François sait de quoi il parle. Autour du trio de choc, entre 1528 et 1533, quatre autres compagnons se sont peu à peu laissés séduire par Ignace. Simon Rodriguez, un Portugais, qui sera plus tard à la tête de la première province jésuite du Portugal. Deux Castillans, Jacques Leynès et Alphonse Salmeron. Le premier deviendra le successeur de Ignace, le second n'a que 17 ans quand il monte à Paris. Tous deux venaient d'Alcala où ils avaient sûrement découvert la renommée de Ignace. Quant à Nicolas Bobadilla, il est le plus pittoresque du groupe. Ses jugements sont redoutés, il est instinctif et fougueux. À maintes reprises, il donnera du fil à retordre à Ignace. Tous ces hommes s'adjoignent au groupe de Ignace après avoir suivi les exercices sous sa conduite. Une exception, François Xavier, qui attend l'automne de 1534. Et il doit inventer de curieuses industries pour trouver le calme. Selon les souvenirs de Ignace, citation, « Maître François de Xavier ne fit pas seulement grande abstinence, mais en outre, comme il était un des plus excellents sauteurs de l'île de Paris, il s'attacha les jambes et tout le corps très étroitement avec une corde. Et c'est ainsi attaché, sans pouvoir bouger, qu'il faisait les méditations. » Fin de citation. Les sept amis ont de fréquentes et intenses rencontres. Ils apprécient pour ces colloques l'enclos du couvent des Chartreux, un peu au-dessus de la porte Saint-Jacques, actuellement le jardin du Luxembourg. La question posée à Ignace se répète pour le groupe. Que faire? Ils prennent trois types de décisions. Primo, achever leurs études dans un délai de 3 ans. Ensuite, se lier par les vœux de pauvreté et chasteté. Enfin, aller à Jérusalem et au retour, s'ils en revenaient, avec l'aide de Dieu, travailler de tout cœur au salut du prochain, des infidèles aussi bien que des fidèles, prêcher à tous la parole de Dieu, administrer gratuitement les sacrements de pénitence et d'Eucharistie. Si le voyage de Jérusalem s'avère impossible dans l'année qui suit la fin de leurs études, ils sont résolus, dès ce moment, de s'en remettre au pape pour qu'il fixe leur genre de vie apostolique et leurs activités. Le plan est tracé, l'avenir se précise. Les compagnons conviennent de sceller leur union par des vœux. Ils ont choisi pour cet acte décisif le jour de l'Assomption 1534 et tous les sept, au petit matin, sortent par la porte Saint-Denis en direction de la colline de Montmartre. Le lieu n'a aucun rapport avec celui que nous connaissons aujourd'hui. Le modeste oratoire est en rase campagne, sans apparat. Pierre Favre, le seul prêtre du groupe, célèbre la messe. À la communion, il se retourne vers ses compagnons et leur présente l'hostie au-dessus de la patène. À genoux, l'un après l'autre, il prononce la formule des vœux. Une fois le rite accompli par tous, Pierre distribue la communion, puis se retourne vers l'autel, prononce à son tour ses vœux et communie. De quels vœux s'agit-il? Ils sont de nature privée. Leur formule ne nous est pas parvenue. Elle inclut sans doute les grandes lignes des décisions prises au cours des délibérations du groupe et, bien entendu, les vœux de pauvreté et de chasteté. Le rite de Montmartre, dépouillé, centré sur l'attachement au Christ, est resté pour l'essentiel dans les usages de la Compagnie de Jésus, qui manifeste ainsi toute l'importance qu'elle attache à ce 15 août 1534. La célébration terminée, les compagnons ne rentrent pas aussitôt en ville. Ils déjeunent d'une collation apportée de Paris et passent la journée entière en plein air et dans une totale allégresse. Le soir descend déjà quand ils prennent le chemin du retour. Dans la douceur de la nuit, leur joie est pure. Ils ne savent pas très bien ce qu'ils vont faire, mais ils savent très bien qui ils veulent suivre, Jésus. Leur certitude au soir de Montmartre est sans mélange.
Petite vie de saint Ignace de Loyola, un contemplatif dans l'action, le fondateur des Jésuites. Un ouvrage du père jésuite Albert Longchamp paru aux éditions Artege Poche. Une lecture proposée par Maïté Iratsoki.